sur des terres où il ne connaissait personne. John Latham avait une autre vision du monde, où hommes et animaux cohabiteraient. Il avait veillé à la présence de super-prédateurs, sans quoi les herbivores auraient détruit en nombre les arbres et les plantes, oiseaux et insectes n'auraient pu assurer le transfert des graines, et la pollinisation diminuant le nombre de champignons et de micro-organismes qui rendaient les terres fertiles, le cycle de la vie, de toutes les vies. Il fallait débourser une petite fortune pour séjourner à Wild Bunch et profiter de safaris sur les lieux stratégiques. Des forages artificiels alimentés par de petits moulins à vent attiraient les animaux en bordure de piste, où il était facile de les observer. Plusieurs générations s'étant succédées dans la réserve, certains avaient fini par s'habituer à la présence humaine. Beaucoup ne s'enfuyaient que si l'on s'approchait trop de leur zone de sécurité ou si l'on sortait des voitures de patrouille. Avec le temps, les espèces les plus rares avaient été introduites. Lycaons, pangolins, guépards, panthères, souvent trop malignes pour se faire voir, qui, avec le luxe de se sentir seul à bord du vaisseau vivant, faisaient de Wild Bunch un endroit unique pour les touristes de passage. Ici, pas de caravaning ni de voiture cul à cul comme au parc Kruger, mais un écosystème au service des animaux et des hommes. Érigé sur un des rares reliefs du désert du Kalahari, le lodge était composé de la maison de John, où était servi le dîner, et de deux îlots d'habitation indépendants qui semblaient suspendus au-dessus du point d'eau, où les bêtes assoiffées se réunissaient pour la trêve du soir. Une serre abritait les légumes, près du staff camp, avec un système de pompage des puits d'irrigation. L'eau provenait d'une nappe souterraine, une eau pure, même s'il fallait la laisser couler une poignée de secondes pour évacuer le sable. L'éolienne, la station d'épuration qui transformait les eaux usagées en eau domestique, la piscine, les espaces privés, Wild Bunch fonctionnait grâce à des panneaux solaires qui permettaient une autonomie quasi totale. Si l'espace de dépeçage à ciel ouvert faisait froid dans le dos, avec ses barres, ses crochets et ses rigoles pour écouler le sang du gibier écorché, les deux tentes de luxe avec salle de bain vintage, toutes d'acajou et de robinetterie en cuivre donnant sur la savane et le point d'eau, justifiaient presque son prix prohibitif. Dans cette sorte de bungalow sur pilotis, on s'éveillait en douceur devant le soleil levant, embrassant le désert aux mille nuances selon l'inclinaison du soleil, jusqu'à la Golden Hour, où herbes hautes et animaux en liberté resplendissaient au crépuscule. Vivre au milieu des grands carnivores nécessitait cependant de l'espace. Les lions pouvant se déplacer de 40 km par nuit lorsqu'ils chassaient, les clients du lodge avaient l'interdiction de déambuler dehors après le dîner. La plupart des lions étaient suivis par GPS, leur collier relié à une tour d'alerte. Certains pouvaient s'approcher, attirés par l'odeur des brebis réfugiées la nuit dans les kraals ou par les herbivores peu farouches qui traînaient matin et soir près des chambres. On entendait leur rugissement rauque du crépuscule jusqu'au matin, audible à des kilomètres, et qui parfois faisait trembler les murs, comme s'ils étaient là, tout près. Frissons assurés pour les touristes, stressés et émus à l'idée d'être si sauvagement entourés. Une surveillance assidue de la réserve s'imposait. Aussi, John et son équipe l'arpentaient-ils du matin au soir. Les feux naturels causés par les éclairs détruisant chaque année des sections entières de Wild Bunch, Encon et les San allumaient des pare-feux durant la saison humide, brûlage précoce et préventif avant les sécheresses. Tous les jours, ou presque, John patrouillait pour voir si des bêtes manquaient, si elles étaient blessées ou changeaient de territoire, au risque de se frotter à d'autres mâles dominants. Il fallait sans cesse calculer le nombre d'animaux qu'il pouvait accueillir et les surplus, selon les saisons d'abondance ou de canicule, gérer les stocks de viande en conséquence et le volume de végétation qui permettait aux herbivores de survivre, adapter la terre dans un environnement aussi sec que le Kalahari et privilégier les circuits courts. Le prix à payer pour les espaces clôturés des régions arides, aussi vastes fussent-ils. 8 véhicules se partageaient les patrouilles, ainsi qu'un Cessna qui commençait à fatiguer. L'arrivée des drones avait facilité la tâche. Ils aidaient à compter les bêtes, évaluer l'état du bush pour intégrer ou non de nouveaux animaux et suivre l'évolution des populations